France Culture.
À voix nue, production Corinne Renoux-Nativelle, cette semaine avec...
Delphine de Vigan, écrivaine.
Bonsoir Delphine de Vigan.
Bonsoir Corinne.
Après avoir évoqué vos livres, nous allons évoquer vos pas de côté à l'écran et à la scène. Rapidement, le cinéma vient à vous. En 2010, 3 ans après la parution de Noé et moi, Zabou Breitman l'adapte pour le cinéma avec Julie-Marie Parmentier et Nina Rodriguez. Comment vivez-vous cette transposition de votre roman sur le grand écran ?
Bien, je garde un bon souvenir de ce moment, de la découverte pour la première fois de ces personnages avec lesquels j'ai vécu plusieurs mois, de les voir tout d'un coup incarnés à l'écran. Le film est différent du roman. Enfin, voilà, forcément, Zabou Breitman a fait un travail d'adaptation qui comprend des choix, avec un vrai parti pris. Mais j'avais aimé le film et j'avais été très émue de découvrir le film. Peut-être d'autant plus que cette toute jeune fille, Nina Rodriguez, était assez spectaculaire parce qu'elle m'évoquait vraiment des photos de moi enfant. Et il y a eu vraiment une espèce d'effet miroir comme ça auquel je ne m'attendais pas du tout. J'avais vraiment aimé le film.
Suivent ensuite les adaptations en 2017 d'Après une histoire vraie par Roman Polanski avec Eva Green et Emmanuel Seigné, ainsi que Les heures souterraines, par Philippe Harel pour la télévision. Puis en 2024, Les enfants sont rois deviennent série. Quel est votre regard sur ces différentes adaptations ? Est-ce qu'adapter est toujours trahir ?
Sans doute, je pense qu'adapter, c'est au minimum interpréter, je le disais à l'instant, choisir un parti pris, souvent trahir, et ça n'est pas tellement là que réside la difficulté. Ça m'est arrivé d'avoir des réactions un petit peu plus compliquées à l'égard de certaines adaptations, non pas parce qu'elles s'éloignaient du roman dans une forme de fidélité qui aurait besoin d'être absolue ou dans le détail, mais parfois dans les esprit, où ça m'est arrivé d'avoir le sentiment que l'adaptation passait un peu à côté de l'essentiel ou de quelque chose qui me semblait plus important.
Là, vous parlez d'adaptation de vos livres ?
Oui, d'adaptation de mes livres, oui. Mais de toute façon, il me semble que l'écrivain n'est vraiment pas la personne la mieux placée pour juger de la qualité d'adaptation, puisque par définition, il s'agit quand même de décaler son regard, de faire autrement, de fabriquer à partir du livre un objet différent, que ça suppose effectivement d'interpréter, voire de trahir. Mais quand on a écrit le livre, la première réaction... Le premier élan, c'est forcément de constater tout ce qu'il y a dans le roman qui n'est pas dans le film ou dans la série. Et c'est, par définition, c'est toujours le cas, parce qu'il y a beaucoup plus de choses dans un livre que dans un film ou dans une série. Donc voilà, je ne me sens pas du tout le meilleur juge, en tout cas. Ça m'est arrivé d'être plus ou moins plus ou moins enthousiaste et parfois un peu déçu. Mais c'est quelque part c'est la règle du jeu. C'est-à-dire que je pars un peu du principe que dès lors qu'on accepte d'être adapté, avec le risque que ça comprend, ensuite il y a une forme d'élégance qui consiste à ne pas forcément crier sur tous les toits qu'on n'a pas du tout aimé l'adaptation, ce qui est arrivé.
Philippe Harel a modifié La chute des heures souterraines où, à la grande déception de nombreux lecteurs, les deux personnages ne se rencontraient pas.
Oui, il l'avait fait de manière assez subtile, je trouve, et il m'en avait parlé, d'ailleurs, dès le début, dans mon souvenir, même quand il m'a contacté, parce qu'il aimait vraiment beaucoup, beaucoup le roman. Très vite, il m'avait dit, ça n'est pas possible de faire au cinéma ce que tu as fait dans le roman, mais je vais te proposer quelque chose qui sera subtil et qui respectera un peu l'esprit du livre, et je trouve que c'est le cas, que c'est très, faut pas divulgâcher, comme on dit maintenant, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou pas lu le roman, mais voilà, il me semble que ce petit pas de côté qu'il a fait par rapport au roman, je le trouve très fin.
Delphine de Vigan, vous a-t-on proposé de participer à ces adaptations ?
Parfois oui, pour certaines, on m'a proposé de participer à l'écriture. Je pense pas que ce soit une bonne idée en fait. J'ai toujours refusé de participer à l'écriture à proprement parler. J'ai pu par exemple sur Les Enfants sont rois, j'étais un peu au départ surtout de l'écriture de la série, un peu en conseil dans le sens où j'avais passé tellement de temps à observer les enfants influenceurs, à observer ces comptes, toute cette économie qui existe autour de ces contenus de share hunting ou d'unboxing, que j'avais quelque part une connaissance que les scénaristes n'avaient pas forcément. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à observer ces gens. Et voilà, donc ça m'a permis peut-être un peu de guider les scénaristes au départ, et puis finalement, assez vite, ils se sont emparés à leur manière du texte, et ça n'avait plus forcément de raison d'être.
Y a-t-il des adaptations de vos livres que vous avez refusées ?
Oui, pour l'instant j'ai refusé plusieurs projets autour de Rien ne s'oppose à la nuit au cinéma. C'est vraiment, et je ne pense pas que ça changera, c'est-à-dire que c'est pour moi tout à fait inconcevable d'imaginer incarner ces personnages qui, si ils sont bel et bien des personnages, puisqu'on en parlait hier, c'est un roman, mais néanmoins ils sont quand même très inspirés par les frères et sœurs de ma mère, par ma mère, voilà, c'est un texte très très personnel. Je ne peux pas imaginer les voir incarnés par des acteurs. La seule chose que j'ai acceptée, c'est assez récemment une adaptation à la Comédie française. Elsa Le Poivre, qui aime beaucoup le texte, m'avait demandé si elle pouvait en faire un seul en scène. Et on a travaillé ensemble à l'adaptation. Et la seule condition que j'avais posée, c'était qu'elle incarne l'écrivain, cette voix de l'écriture, enfin, du livre en train de se faire, qui est présente dans le roman. Voilà, c'est ce sur quoi on a travaillé, on a coécrit, enfin choisi les extraits ensemble de l'adaptation. Ça a été joué au studio de la Comédie française, mais je ne l'imaginerais pas au cinéma. Et l'autre, c'est Les Gratitudes, pour lequel j'ai eu aussi plusieurs fois des propositions. Le texte a été adapté avec beaucoup de finesse et beaucoup de succès d'ailleurs, par Fabien Gorgeard, le metteur en scène.
Mais sur scène.
Sur scène, oui, et avec Catherine Yégel, très très belle adaptation. Mais au cinéma, pour l'instant, j'ai refusé plusieurs propositions. J'ai un petit peu du mal à imaginer le film, c'est-à-dire que je vois bien les écueils, je vois bien, pour dire les choses, quel film un peu niais ça peut devenir. Et là où il y a tout un travail quand même sur la langue, sur la perte du langage qui me semble pouvoir être vraiment mis en valeur par le théâtre, j'ai peur du réalisme du cinéma.
Oui, parce que Les Gratitudes raconte l'accompagnement par une jeune femme, d'une femme qui a une vieille voisine qui a beaucoup compté pour elle. Qui est en train de perdre ses mots.
Qui perd les mots, l'accompagnement à la fois par un orthophoniste, ils étaient trois sur scène, et en effet par cette jeune femme, et il y a vraiment, voilà, tout un travail sur ces mots qu'elle commence d'abord par remplacer par d'autres, et donc à la fois les lapsus, les néologismes, les dérapages racontent vraiment quelque chose, et puis ensuite c'est la perte vraiment du langage, c'est-à-dire qu'il y a même plus rien pour remplacer.
Et ça, vous craignez, avec une adaptation au cinéma, quelque chose de...
Oui, peut-être quelque chose de trop réaliste. Là, je trouve que le théâtre permet de décaler un petit peu les choses, et tel que Fabien Gorgeard l'avait mis en scène, il avait eu recours aux chansons, à la musique, aux souvenirs que les chansons laissent en nous, à l'empreinte que les chansons laissent en nous. Et c'est vrai que, par exemple, pour des gens qui souffrent d'Alzheimer, ce qui n'est pas le cas du personnage, le personnage souffre d'aphasie, les chansons, on sait bien, restent souvent très 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 présentes, les paroles des chansons, etc. Donc ils jouaient là-dessus, et c'est et puis bon, de toute façon, le dispositif même du théâtre, cette scène avec ces trois personnages, c'est, il y a quelque chose, on est au théâtre quoi, on n'est pas dans la réalité, et je trouve que ça va bien avec le texte. Peut-être qu'un jour j'aurais une proposition dont je me dirais non, mais ça, tu peux pas passer à côté, je ne sais pas, mais pour l'instant, j'ai toujours eu un peu peur de ça.
Delphine Devigan, le cinéma vient à vous par une autre voie. Vous êtes sollicitée pour écrire des scénarios et des adaptations. Tu seras mon fils, de Gilles Legrand, Damoclès, d'après une nouvelle d'Oscar Wilde, et Tropique de la violence, d'après le roman de Natacha Appanah, tous les deux réalisés par Manuel Chapira. Comment vivez-vous ces sollicitations ?
Alors, ça s'est fait différemment. Pour Gilles Legrand, on s'était rencontrés, et donc ça c'est un scénario original, tu seras mon fils. On avait eu l'occasion de se croiser, il m'avait parlé d'un projet sur lequel il était en difficulté. Il m'avait un petit peu raconté, j'avais réagi en fait à ce qu'il me disait, mais un peu spontanément comme ça, sans penser plus à, forcément à travailler sur le film. Et puis le lendemain, il m'a rappelé en me disant, ça m'intéresse ce que vous m'avez dit, est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager d'avancer ensemble, ce qu'on a fait. C'était une collaboration très intéressante parce que c'était la première fois que j'écrivais un scénario. Et donc, lui allait réaliser le film. C'était assez passionnant parce qu'il y a des moments où je proposais des choses et il me disait, ben non, mais ça, très bien, mais comment je vais le montrer? Et donc, voilà, c'était vraiment une manière, pour moi, ça a été une manière assez passionnante d'apprivoiser la grammaire du cinéma. Ensuite, Manuel Chapira, je l'avais rencontré, c'est depuis maintenant un ami, mais c'était donc il y a maintenant pas mal de temps. Je pense qu'on avait été présentés l'un à l'autre par un producteur qui avait un projet d'adaptation des Jolis Garçons, un texte dont on a parlé rapidement l'autre soir. Et puis ça s'est pas fait, comme très souvent au cinéma, je ne sais plus d'ailleurs pourquoi. Ensuite, Manuel m'a proposé de travailler avec lui et avec Raphaël Chevènement sur l'adaptation de la nouvelle d'Oscar Wilde pour Arte. Donc là, moi, j'étais plutôt un petit peu en troisième position, on va dire, par rapport à eux deux. Et ensuite, c'est moi qui ai lu Tropique de la violence de Natacha Apana, qui est une écrivaine dont j'aime beaucoup le travail depuis longtemps. Et quand j'ai lu ce texte, je savais que Manuel cherchait un sujet pour un long métrage. Et là, je me suis dit, c'est pour lui. J'avais vu ces différents courts métrages. Et donc, j'étais un petit peu au tout début, à l'origine un peu de ce projet. Et ensuite, il m'a dit oui, mais est-ce que tu veux pas le faire avec moi? Et voilà. Alors, c'est fait comme ça.
En quoi l'écriture d'un scénario, l'écriture d'un livre diffère, en quoi elles se ressemblent?
Ça n'a rien à voir. Pour moi, ce sont deux exercices très très différents. Le scénario, je ne l'ai jamais fait seule, donc déjà il y a pour moi quelque chose de collectif qui est d'ailleurs souvent ce que je recherche probablement à ce moment-là, le fait de pouvoir travailler à plusieurs, échanger, rebondir, partager. J'aime bien ça. C'est différent évidemment de la solitude du roman. Il me semble que c'est à la fois beaucoup plus technique et beaucoup plus et parfois plus ludique aussi. Il y a quelque chose, il y a plus de règles dans le scénario. Ou en tout cas tel que je le conçois ou tel que peut-être les producteurs le conçoivent, moins de liberté aussi. Donc, beaucoup plus d'interlocuteurs, beaucoup plus de gens qui vont se pencher sur votre travail au moment où il se produit dans ces différentes versions. Heureusement que ça n'est pas comme ça quand on écrit un livre, parce que ce serait tout à fait insupportable. Mais heureusement que beaucoup moins de gens ont leur mot à dire sur un texte littéraire. C'est pour moi un pas de côté, c'est vraiment le bon mot, c'est-à-dire que je me sens infiniment plus écrivaine que scénariste. Et d'ailleurs, je ne dis jamais que je suis scénariste. J'ai collaboré à des scénarios et j'ai le sentiment que quand je collabore à des scénarios, c'est plutôt à la romancière qu'on fait appel qu'à une potentielle scénariste. Même si, à force, j'ai sans doute acquis quelques réflexes ou quelques habitudes qui sont utiles, mais c'est aussi parce que j'espère apporter une forme de liberté dans l'écriture quand je travaille sur des scénarios. Et plus récemment encore, j'ai proposé à François Bunel, mon compagnon, un texte de Sandrine Collette qui s'appelle « On était des loups ». Et pareil, je pensais que c'était vraiment, ça correspondait exactement à ce qu'il recherchait. Et voilà. Et puis ce projet s'est développé aussi.
Un de vos scénarios débouche sur la réalisation d'un film à coup sûr en 2014 avec Laurence Arnay, Eric Elmosnino. Pouvez-vous revenir sur ce qui vous a amené à passer derrière la caméra ?
un peu le hasard, l'inconscience déjà, peut-être, avant toute chose. C'est-à-dire que j'avais été contactée par des producteurs pour, qui avaient envie de développer une comédie, qui avaient lu justement Les Jolis Garçons, ce qui n'était pas très fréquent parce que c'est sans doute mon texte le moins connu. Et donc, qui m'avaient proposé de développer un sujet de comédie. Et puis, le sujet leur a plu, j'ai développé le scénario, d'abord toute seule, et puis ensuite, à la fin, avec un garçon qui s'appelle Chris Esquer, qui est très drôle. Et puis, au moment de trouver quelqu'un pour le réaliser, parce que le projet de départ, c'était ça, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué que prévu. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même cette tradition que les scénaristes réalisent eux-mêmes, que les réalisateurs soient scénaristes et que les scénaristes soient réalisateurs. Il y a beaucoup moins qu'ailleurs des films qui sont vraiment remis clé en main à des réalisateurs, peut-être un peu plus dans la série aujourd'hui. Mais au cinéma, c'est finalement assez rare. Et donc, les producteurs avaient une exigence, voulaient que ce soit quelqu'un d'un peu connu. Or, les gens qui ont été contactés à ce moment-là avaient soit n'aimaient pas le projet, soit avaient leur univers, soit leur projet. Donc, enfin, voilà. Et puis, les gens qui potentiellement étaient un peu intéressés n'étaient pas forcément suffisamment identifiés de leur point de vue. Donc, un jour, j'ai dit, pourquoi je le ferais pas ? Vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Et ils m'ont dit, explique-nous que tu ferais. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. Et vraiment, quand je vous parle d'inconscience, ce n'est pas exagéré. Je ne me représentais pas du tout ce que ça signifie réaliser un film. C'est une expérience que je ne regrette pas une seconde. Et j'ai, à la fois, je me suis amusée, j'ai beaucoup appris humainement. C'était une expérience tout à fait passionnante. Mais on ne peut pas dire que ça marquera l'histoire du cinéma.
Annie Ernaux dit chercher toutes les échappatoires pour ne pas écrire. Delphine de Vigan, est-ce que le cinéma en est une pour vous ?
Non, je dirais pas ça. C'est plus vraiment un pas de côté. J'aime bien cette idée. L'écriture romanesque, c'est quelque chose qui me paraît, qui continue de me paraître extrêmement exigeant en temps, en énergie, mais surtout en trip. J'ai envie de vous dire de l'implication, le sentiment de s'exposer, l'engagement physique, physiologique presque que représente l'écriture. En tout cas, en ce qui me concerne, je sens bien que quand je suis dans l'écriture romanesque, c'est vraiment tout mon corps qui est en jeu, sans doute tout mon inconscient, toute ma psyché, tout la mémoire, tout ça. Donc c'est il y a quelque chose d'un petit peu trop ou d'un peu épuisant parfois. C'est pas la mine, hein, bien sûr, mais voilà. En tout cas, je suis assez heureuse d'avoir ce type de de pas de côté. C'est vraiment, je trouve la façon de le dire très jolie, c'est-à-dire bien sûr de m'engager aussi, mais dans quelque chose qui n'est pas aussi impliquant pour moi, en tout cas pas où je ne suis pas seule, où il va y avoir d'autres gens, d'autres énergies, d'autres univers qui vont entrer en jeu.
En 2016, on vous retrouve sur scène avec la chanteuse La Grande Sophie. Pourquoi Delphine de Vigan, ce spectacle, et en quoi consistait-il ?
Ah, c'était une très belle aventure. Il est né d'une proposition d'Arnaud Catherine qui programme pas mal de festivals et notamment fait partie des gens qui programment la Maison de la Poésie, qui m'avait contacté à l'époque pour un festival qui a lieu à Nevers, qui s'appelle Tandem, et où en fait on propose donc à un écrivain de partager la scène avec quelqu'un de son choix. Assez vite, je m'étais tournée vers la chanson et je lui avais dit, tiens, je ferais bien quelque chose avec un chanteur ou une chanteuse. Et puis, c'était une époque où j'écoutais pas mal La Grande Sophie, donc j'ai proposé La Grande Sophie qui lui paraissait accessible. Et en effet, on s'est rencontrés, on a fait ce premier spectacle un peu, j'allais dire bricolé, mais non, parce qu'avec Sophie, c'est jamais bricolé. Il faut répéter déjà beaucoup, beaucoup, même pour une seule fois. C'est quelqu'un de très, très perfectionniste. Mais donc, on a travaillé, on a répété pour ce spectacle. Elle a écrit une chanson pour ce spectacle, ce qui ne devait avoir lieu qu'une fois. Une chanson autour de Jours sans fin qui s'appelle Je n'ai rien vu venir, qui est très, très belle, qui figure donc dans un de ses albums. Et voilà, puis en fait ça a été une rencontre amicale, je pense, tout de suite. On a beaucoup beaucoup aimé, les gens étaient très très émus quand on a joué cette première version du spectacle. Et ensuite c'est elle qui m'a proposé, qui m'a dit, est-ce que ça te dirait qu'on mette au point quelque chose d'un peu plus élaboré, avec des lumières, un metteur en scène, etc., et qu'on tourne un peu avec ça. Et donc, on a fait plusieurs résidences, on a choisi ensemble, c'était des extraits, en fait, de la plupart de mes romans. Tous mes romans, d'ailleurs, de l'époque étaient représentés, qu'on avait mis en écho de son travail à elle, de ses chansons à elle, que je connaissais bien, donc je pouvais moi lui proposer, elle me proposer, et qui racontait finalement au fil de l'eau un peu une histoire de femme, du début, l'enfance, l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte, la rencontre amoureuse, tous ces thèmes s'enchaînaient par fragments. Le spectacle a bien marché. On a joué plus de 50 fois, je pense, un peu partout en France, en Belgique, au Canada. Très belle aventure.
Et que vous apporte cette expérience de la scène, qui est nouvelle?
Oui, c'était nouveau pour moi. J'ai beaucoup aimé ça. J'aime beaucoup lire mes textes à voix haute. J'ai appris aussi à le faire. C'est-à-dire que je pense que j'ai progressé au fil du temps en tournant avec ce spectacle. Parce que voilà, je lisais parfois avec musique, sans musique, et j'aime beaucoup lire à voix haute, j'aime beaucoup lire en public, dans les librairies, etc. Alors la scène, c'est encore autre chose, parce qu'il y a vraiment la dimension du spectacle. Ça m'a apporté beaucoup, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. C'est complètement fascinant d'entendre par moments, quand on lit un texte, d'entendre le silence par exemple, d'entendre ce que le texte produit. C'est peut-être ça qui me fascine le plus, encore aujourd'hui. Quand il m'arrive de faire des lectures à voix haute de mes textes, avec ou sans musicien, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tout d'un coup, le silence est variable. Parfois le silence est flottant, parfois le silence tout d'un coup s'épaissit, et parfois vous vous rendez compte que vraiment les gens en face de vous sont accrochés à vos mots, et vous avez vraiment le sentiment de mesurer l'impact de ce que vous êtes en train de dire, et ça c'est très très grisant.
L'inverse du silence des lecteurs,
oui.
Derrière leur parole.
Voilà, qu'on ne connaît pas ou qui vous font des commentaires a posteriori, et d'ailleurs souvent très intéressants. Mais il y a vraiment quelque chose comme ça qui consiste à appréhender en direct le pouvoir des mots, le pouvoir du rythme, le pouvoir de la phrase, c'est très beau.
En 2024, Delphine de Vigan, on découvre une autre facette de votre écriture avec Les Figurants, une pièce de théâtre avec de très belles idées de mise en scène. Pourquoi une pièce de théâtre ?
Ça faisait longtemps que je tournais autour parce que, justement, il y avait eu une première version des Gratitudes. C'était une pièce, c'était une très courte pièce qui s'appelait Merci, que j'avais écrite pour le festival Le Paris des Femmes, qui existe encore et qui chaque année propose à des romancières d'écrire une courte pièce qui va être jouée, ce qui est super parce que pour la première fois, hop, vous avez tout de suite la possibilité d'entrevoir une forme de résultat. Et j'avais senti, quand cette courte pièce avait été jouée, qu'elle avait un certain potentiel émotionnel, on va dire. Plus tard, donc, j'en ai fait un roman sans oser aller vers la forme théâtrale parce que ça m'avait traversé. D'ailleurs, Les Gratitudes, le roman, est composé d'une succession de dialogues et de monologues. Il y a pratiquement rien autour. Et peut-être parce que je n'avais pas osé à ce moment-là me dire, allez, j'essaye d'écrire pour le théâtre. Et puis, il y a eu cette collaboration avec Elsa Lepoivre sur l'adaptation de Rien ne s'oppose à la nuit. Il y a eu l'adaptation des Gratitudes. Tout ça, ça m'a rapprochée finalement du théâtre. J'y vais beaucoup. En tant que spectatrice, c'est vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup aller au théâtre. Et un jour, je me suis dit, je vais essayer. Et puis, tant qu'à faire, personne ne m'avait rien demandé. À la limite, je rêvais qu'un jour, un directeur de théâtre me dise, Delphine de Vigan, vous ne voudriez pas nous écrire une pièce? Et non, comme ça, ça n'arrivait pas. Donc, je me suis dit, mais moi, je vais essayer. Et puis, tant qu'à faire, je vais pas écrire un monologue. Je vais écrire une pièce avec pas mal de personnages qui rentrent, qui sortent. Et plein de trucs qui se passent avec une dimension visuelle, avec il y a vraiment une dimension visuelle qui est assez précise dans la pièce. Et voilà. Et Gallimard, ils ont eu la gentillesse de la publier telle que, sans qu'elle soit jouée, ce qui sera bientôt le cas, mais voilà.
Ce sera le cas ?
Est-ce que vous... Oui, ça sera le cas. Normalement, elle va être créée, donc si tout va bien, à Avignon l'été prochain, dans une mise en scène de Valérie Donzelli.
En juin 2026. En
2026. Et puis ensuite, elle sera, si tout va bien, reprise à Paris, à la Scala.
Le théâtre est un genre différent. Pourtant, dans Les Figurants, on retrouve des thèmes récurrents de vos romans. Montrer ce qu'on voit peu.
Oui, ça faisait partie vraiment du projet, cette idée de, et puis toute cette question justement autour de d'être vu, pas être vu, qui est tellement importante aujourd'hui, hein, dans notre époque, se montrer, se cacher, jusqu'où on se montre, raconter sa vie sous une forme ou sous une autre, etc. Et ces figurants qui sont toujours à l'arrière-plan, il y avait à la fois quelque chose qui me fascinait, c'est-à-dire que je... D'ailleurs, peut-être c'est quand j'ai tourné mon film que j'ai été un peu sensibilisée à ça, parce qu'il y avait des figurants, de me dire mais qui sont ces gens, de voir voilà comment on les fait bouger d'un endroit à l'autre, comment on les choisit, etc. Et j'avais envie de raconter un peu ce que c'est que la vie d'un figurant, d'où voilà qui ils sont. Il s'avère que ils viennent finalement d'horizons très divers et qu'il y a une typologie assez variés, mais aussi donc et qui très souvent quand même envie qu'on les voit, c'est-à-dire qu'ils participent de la magie du cinéma indéniablement, et sans eux jusqu'à présent ils sont assez menacés à vrai dire par l'intelligence artificielle, mais jusqu'à présent c'est vrai qu'on ne peut pas faire un film sans qui se passe dans une rue ou dans un aéroport ou dans une gare sans figurants. Ils font partie du décor, de sa crédibilité, etc. Et en même temps, et donc ils sont vus sans être vus, c'est-à-dire qu'on ne doit pas les remarquer, on ne doit pas les regarder. Et je me disais, oui, c'est quand même. Je sentais que chez certains, c'était quand même une source de frustration assez importante. Et puis, assez vite, ça m'est apparu comme une magnifique métaphore de la vie. Je me suis dit, mais d'un point de vue philosophique, c'est exactement ce qu'on vit finalement. Certains sont devant, d'autres sont derrière. Certains aimeraient qu'on les voit plus, d'autres qu'on les voit moins. On est tous plus ou moins embarqués dans une histoire qui a commencé avant nous et qui se terminera, on ne sait pas trop quand. Parfois, voilà, on a un grand sentiment d'absurdité. On ne connaît pas l'histoire du film, on ne connaît pas la fin. Bon, tout ça me paraissait assez intéressant à explorer.
Vous y avez fait allusion, vous retournez au scénario de film en écrivant « On était des loups » avec votre compagnon François Bunel, qui a longtemps présenté « La Grande Librairie » sur France 5. Comment est né ce projet de film ?
Vraiment parce que lui donc a quitté la Grande Librairie il y a maintenant un petit moment, avec un très fort désir de réalisation. Il en parlerait mieux que moi, mais il avait réalisé un documentaire sur Jim Harrison qui a rencontré, un peu contre toute attente, parce que c'est un film assez âpre et assez radical, qui avait rencontré un très bon succès au cinéma pour un documentaire. Et voilà, je pense que ce désir était là chez lui depuis déjà assez longtemps, et qu'à un moment donné, il s'est dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, j'arrête la Grande Librairie et j'essaye de prendre un tournant. Et moi, j'étais assez admirative de ça, de voilà, cette capacité à arrêter quand on, voilà, il n'y avait aucune raison d'arrêter. Objectivement, l'émission marchait très bien. Voilà. Et puis, il cherchait des idées. Je connais sa passion pour les grands espaces. Et il me semblait que le roman comportait aussi un certain nombre de thèmes qui pouvaient vraiment le toucher, l'intéresser.
La paternité, et donc, la nature.
La paternité, oui. Il y a toute une réflexion sur la paternité, sur la solitude, sur l'importance de l'être aimé. voilà. Et puis, il aurait peut-être lu un peu plus tard, d'ailleurs, lui-même, le roman de Sandrine Collette, parce qu'il l'avait à la fois lu et reçu à plusieurs reprises. Mais là, quand je suis tombée sur le texte, je me suis dit, vraiment, c'est pour lui. Et donc, voilà, elle nous a fait confiance.
Merci beaucoup, Delphine de Vigan. À demain pour le dernier volet, déjà, de cette belle série d'entretiens en votre compagnie.
Merci.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Martin Troadec, une série de Corinne Renoux-Nativelle disponible sur le site et l'application de Radio France.